Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence en nombre aujourd'hui pour cette réunion d'information préalable. Je vais commencer par me présenter, c'est moi. Je m'appelle Pascal François et je suis un ancien journaliste de radio, de télévision et de presse écrite et je me suis spécialisé dans la modération de débats réunissant du public en salle comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai donc la casquette de modérateur. Un modérateur, il est là pour plusieurs raisons. Il est d'abord là pour cadrer, pour animer et permettre les échanges les plus constructifs possibles au moment des questions-réponses. C'est le rôle qui m'incombe aujourd'hui. Ah oui, il faut que je me fasse au petit temps d'attente. Voilà. Simplement vous expliquer que nous sommes ici dans un contexte où on va se donner 1h30 pour pouvoir débattre ensemble avec la règle des deux tiers, un tiers. Un tiers du temps sera évidemment consacré aux différentes présentations, que ce soit de la part du porteur de projet, que ce soit également de la part du bureau d'études. Et puis l'essentiel du reste de la soirée, ce sera vraiment un échange avec vous. Mais avant de détailler la procédure, je vais peut-être passer la parole à monsieur le bourgmestre de cette commune de Saint-Hubert, parce que vous le savez peut-être ou pas, sinon je vous l'apprends, lors d'une réunion d'information préalable, il incombe à la commune d'endosser la casquette, je dirais, de présidence de séance. Et elle incombe là, généralement, au bourgmestre. Le bourgmestre est à côté. Vous avez compris que c'était lui le président de séance. Et le mot d'accueil lui incombe également. Je vous en prie. Bonsoir.
Je vous souhaite la bienvenue à tous. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, la ZAC, avec toujours un peu plus de peur que ne reflète la réalité. Nous avons rencontré à de multiples reprises les entreprises Ouyou, et je peux vous dire qu'en tant que bourgmestre, je suis rassuré par cette entreprise et la dynamique de cette entreprise. Voilà. Et je vais vous passer pour le reste.
Très bien, fin de soirée, merci, bon retour chez vous. On va quand même prendre la peine de parler du projet, si vous le voulez bien. La présidence de séance pour Didier Neuvens, qui est le bourgmestre de la commune de Saint-Hubert. Le porteur de projet, la société Ouyou Construction, représentée par Sophie Pierrard, du service développement immobilier. À ses côtés, Stéphane Renier, qui est responsable du projet, qui va vous le présenter. Et de l'autre côté, également, pour marquer peut-être l'indépendance qu'il peut y avoir entre un porteur de projet et le bureau d'études, on salue la présence de Laurent Anciot, qui est chargé de projet en environnement pour le bureau Impact, puisqu'on est ici aujourd'hui parce que le législateur veut en effet qu'au moment du lancement de l'étude d'incidence sur l'environnement, on puisse tenir cette réunion d'information préalable. Alors, je vous disais, le principe, c'est 1h30 ici ensemble, une demi-heure consacrée aux différentes présentations, dont la mienne, et puis l'essentiel du reste de la soirée, ce seront évidemment des échanges avec vous. Alors, une réunion d'information, peut-être en deux mots, vous expliquer ce que c'est. Vous dire que c'est pas un endroit où on peut crier très fort et dire qu'on est contre un projet, ça sert pas à grand-chose de faire ça. Ce qui est plutôt utile, c'est de permettre de venir effectivement chercher une information, d'émettre des observations côté public, une fois que vous avez reçu des informations par rapport au projet, pouvoir présenter des alternatives techniques qui peuvent raisonnablement être envisagées par le demandeur. Et le plus important, sans doute, de tous les points, lorsqu'on a un public de riverains présent dans une salle, comme c'est le cas, j'imagine, aujourd'hui, c'est vous entendre aussi sur des points que vous souhaitez mettre en évidence, des points particuliers qui, selon vous, doivent être abordés dans le cadre de l'étude d'incidence sur l'environnement. En termes d'étapes, retenez de ce graphique qu'il y a vraiment deux moments importants pour la population. Maintenant, au départ de la réunion d'information, et puis plus tard, au moment de l'enquête publique, où pendant 30 jours, vous aurez l'occasion de vous manifester. Alors qu'ici, c'est une période de 15 jours à partir de maintenant. La possibilité vous est offerte de pouvoir envoyer aussi des courriers complémentaires aux interventions que vous pourriez faire aujourd'hui, des courriers ou des courriels, des emails. Et voici les différents moyens de pouvoir communiquer avec le Collège communal de Saint-Hubert, avec une copie, si vous le souhaitez, aux porteurs de projet. Ces coordonnées, je vous les remettrai un petit peu plus tard dans la soirée. Courrier postal, courrier électronique. Le PV de la réunion peut être demandé aussi à la commune. Vous dire également que depuis très peu de temps, depuis quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, le législateur wallon a souhaité que vous puissiez accéder aux présentations qui vont vous être projetées ce soir. Donc l'ensemble des contenus vont être accessibles, ainsi que le son, l'enregistrement complet de la soirée sur cette page. En scannant ce QR code, vous pourrez accéder directement dès demain à un espace de communication où vous aurez les présentations, la vidéo, l'enregistrement des différents échanges. Donc c'est sur ce QR code. On le remettra également un peu plus tard dans la soirée pour que vous puissiez le photographier à votre aise. Je ne serai pas plus long, je vous remercie de votre présence en nombre. Je vous retrouverai un tout petit peu plus tard dans la soirée, au moment, en effet, des questions-réponses, où je vous demanderai à chaque fois que vous prenez la parole de bien vouloir donner votre nom. Puisqu'on enregistre, vous l'avez compris, les débats, et on a besoin de pouvoir dresser un procès-verbal complet de la séance, c'est très formel tout ça, mais donc je vous demanderai d'avoir cette gentillesse de me donner votre nom et votre prénom, et je passe tout de suite le relais et la parole au représentant, à la représentante, en l'occurrence, de la société Ouyou Construction.
Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant que mon collègue ne vous présente le projet dont nous sommes porteurs dans votre commune, je souhaite avant tout vous parler de qui nous sommes brièvement. Je suis allée trop vite.
Il y a un tout petit temps de latence entre le moment où on appuie et où l'image arrive.
Alors, l'entreprise Ouyou Construction, c'est une entreprise familiale qui est située à Marlois, dans la commune de Marchand-Famène, donc pas très loin d'ici. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 100 ans, qui est transmise de génération en génération. Notre direction est actuellement Jean-Julien Ouyou, qui est notre quatrième génération. Et la cinquième génération vient de rejoindre l'équipe récemment en vue de perpétuer les valeurs de l'entreprise et le savoir-faire. Alors, quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Eh bien, nous attachons énormément d'importance au sérieux, à la rigueur de notre travail. Nous souhaitons aussi respecter nos engagements en termes de délai, de budget et autres. Et nous tenons à cœur aussi d'offrir des bâtiments de qualité. Alors, quelles sont nos activités ? Nous sommes avant tout une entreprise de construction. Nous sommes spécialisés dans les bâtiments résidentiels, de services et de bureaux. Nous réalisons également des bâtiments industriels et commerciaux. Et depuis plus de 30 ans, nous avons un service développement immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est un développement immobilier ? En fait, c'est la réalisation d'un projet de A à Z, c'est-à-dire de l'acquisition du terrain jusqu'à la vente des biens que nous construisons, en passant par la conception et la construction. Donc on peut être développeur de projets en partenariat avec d'autres promoteurs ou pour notre propre compte. Donc c'est le cas du projet ici à Saint-Hubert, c'est un projet en développement immobilier. Alors l'entreprise Ouyou, en quelques chiffres, c'est 170 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires annuel moyen de 50 millions d'euros et c'est une agrégation en classe 8. Alors pourquoi est-ce que je vous explique quelques chiffres ? C'est parce que ça reflète en fait la solidité de l'entreprise qui est capable de mener à bien des projets jusqu'à leur terme et même les projets les plus exigeants dans le respect des délais et autres. Nous sommes une entreprise qui est reconnue et nous œuvrons principalement en Wallonie, également à Bruxelles et au Grand-Duché du Luxembourg. Alors ici, ben voilà, c'est quelques exemples de réalisations que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet. C'est pour vous donner un exemple de développement immobilier que l'on a déjà réalisé dans ces dernières années. Il y a le projet qu'on a nommé Central Park à Marchand-Famène. C'est un assez gros développement immobilier, mais qui s'est réalisé en deux temps. Donc il y a dans ce projet-là des espaces conviviaux, donc de convivialité, une plaine de jeux qu'on ne voit pas ici sur la photo, mais voilà. À Arlon, on a réalisé un écoquartier. Ce sont plusieurs petits immeubles, mais au total, donc ça représente aussi un gros projet. Donc on est très présent à Arlon. Voilà, donc on a réalisé aussi un immeuble de 22 appartements et 2 commerces à Bertry. Et voilà, ça c'est un peu plus ancien, c'était à Vielsalm, en bordure de lac. On a réalisé dans un premier temps les terrasses du lac et puis ensuite les jardins du lac. C'est deux projets qui contiennent 4 bâtiments et dans chaque bâtiment il y a plus ou moins, je veux dire, une douzaine d'appartements. Voilà, je veux simplement, avant de parler du projet, simplement dire que pour chacun de nos projets, nous veillons à créer des espaces de vie conviviaux. Ce qui est important pour nous, c'est le bien-être de nos clients, le bien-être des occupants, et qu'à chaque fois, on essaye de créer des projets qui s'intègrent dans leur environnement. Donc voilà, à chaque fois, il y a des contraintes et on essaye de s'adapter aux contraintes et de faire en sorte que la construction et l'architecture s'intègrent à l'environnement. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire ici aussi à Saint-Hubert. Et toujours, l'objectif final, c'est la satisfaction de nos clients et la confiance qu'ils nous accordent. Voilà.
Allô, voilà. Voilà. Bonsoir à tous également et à toutes. Donc, je vais vous présenter le projet en parcourant dans un premier temps sa situation. Donc, nous avons le souhait de porter ce projet, car le développement de la zone dans laquelle il se situe constitue un enjeu important, une opportunité même. Cet enjeu qui participera à la redynamisation de votre ville et de son centre. Vous avez une série d'éléments autour du site qui sont importants, tant au niveau de sa proximité par rapport au centre et de tout ce qui concerne la mobilité douce et des liaisons piétonnes qui peuvent exister avec le réseau existant. Vous avez la présence d'une école, d'un centre médical, d'une crèche, école primaire, secondaire et même maternelle. Et vous avez également une desserte avec des arrêts de bus de la STIB. Donc ça constitue des éléments importants pour le développement du projet. Il est possible de créer une nouvelle structure urbaine, un lieu de vie, en favorisant une offre de logement variée, répondant aux besoins avec l'évolution démographique qui a été en diminution depuis quelques années au niveau de la commune de Saint-Hubert. Il est nécessaire aussi de créer une mixité de logements qui s'adressera aux jeunes, moins jeunes, aux familles monoparentales et aussi d'attirer de nouveaux propriétaires. Alors, un point particulier qui concerne le site en lui-même. Donc ça concerne, parce que c'est un élément dont on parle beaucoup depuis quelques années, au niveau de la zone, il n'y a pas de zone inondable, ni ce qu'on appelle des axes de ruissellement concentrés, dans le sens où ici, sur base des cartes de la région Wallonne, les axes de ruissellement sont concentrés au niveau des voiries, voire éventuellement un peu au niveau de l'école, mais pas sur la parcelle de terrain concernée. Il faut savoir également qu'au niveau régional, par rapport au schéma de développement territorial, ce terrain se situe dans une zone dite de centralité, c'est-à-dire qui a été définie par la région Wallonne comme devant être densifiée ou devant être intéressante en termes de développement. Et également, en 2018, il y a eu le fameux RUE, le règlement urbanistique et environnemental, qui a fait l'objet d'une enquête publique et également d'une réunion d'information préalable. Et ce RUE est entré en vigueur en 2018. Et le développement de notre projet se basera sur les prescrits de ce RUE. Alors, au niveau de la parcelle, il était important de préciser plusieurs choses d'emblée par rapport à des craintes éventuelles que vous pourriez avoir par rapport au projet de RUE qui a été initié en 2018. Le projet dont a fait l'acquisition concerne le liseré bleu. Donc, il s'agit d'un projet de 3,19 hectares. Nous ne développerons pas le projet ou d'autres projets au-delà de ces limites de propriété-là, dans le sens où on reviendra sur le RUE un petit peu par après. Il y avait eu, lors des enquêtes publiques et des annonces de projets, des craintes de la part des riverains qui habitaient dans ce quartier-là par rapport à des soucis ou des problèmes d'expropriation. Il n'en est rien. De même que pour la partie supérieure, qui ne concerne pas non plus le développement immobilier que nous vous proposons aujourd'hui. Il est également prévu. Donc il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte par rapport à l'évolution et au développement du projet. Il y a un sentier qui est ici, qui a, je pense, été déjà dévié en partie là. Donc c'est un chemin vicinal. Il entrera en ligne de compte dans le développement. Tout ce qui est densité végétale existante, en limite de propriété chez les riverains, chez les voisins, resteront. On aura peut-être même tendance à essayer de les renforcer si, à certains moments, il y a des remarques ou des demandes par rapport à ça. Donc on a des densités végétales en limite de propriété là, en limite de propriété ici. Un troisième élément concerne les distances. Le bâti existant ici, le bâti existant là, par rapport au développement de projet, on se situe entre 50 et 90 mètres par rapport au développement qui va s'y trouver, et on va y venir après. Il y a également, pour terminer, une haie qui longe le terrain ici en pied, en sachant qu'à terme, il y avait dans le RUE un projet de réaliser un parking à cet endroit-là. Mais à l'heure actuelle, la haie qui existe, il n'y a pas de raison d'être d'y toucher. Voilà, vous avez quelques vues du terrain que vous connaissez. Il est important également de spécifier que sur la longueur du terrain, qui fait à peu près 200 mètres, l'orientation nord en bas, sud en haut, qui va avoir une influence sur le développement des bâtiments que l'on va créer, et une dénivelée constante sur l'ensemble du terrain, que l'on va voir ici. Voilà, cette dénivelée qui est ici, une dénivelée constante, et on va faire le maximum pour se coller à ce relief, pour ne pas créer des modifications importantes en termes de déblais remblais. Alors, voilà. Cette superposition-ci est extrêmement importante pour que vous puissiez comprendre, je dirais, les tenants et aboutissants. Donc, la limite bleue et la limite parcellaire du terrain dont on a fait l'acquisition. Et nous développerons donc dans ces limites-là. Donc, comme je l'ai fait allusion tout à l'heure, tout ceci ne nous concerne pas. Tout ceci ne nous concerne pas. C'est extrêmement important. Il n'y a pas d'intention de notre part, pour le rappel, de procéder à des expropriations. Voilà, vous avez ici le projet d'implantation du projet. Ce projet se développe sur différents axes. Donc, dans l'idée de son développement, il s'agirait d'un permis d'urbanisme groupé, c'est-à-dire que l'idée du développeur de projet, c'est de construire l'ensemble de ce qui doit venir s'installer sur le terrain. Donc, on ne vend pas des parcelles à d'autres constructeurs. On souhaite construire l'ensemble du projet. Il se fera sans doute par phase. Lors du dépôt du permis d'urbanisme, on précisera éventuellement ces différentes phases. Un deuxième élément, il y aura une série de voiries. Donc, il y a une voirie basse ici, qui est considérée comme une desserte locale, qui permettra un accès futur, éventuellement, par rapport au parking, c'est prévu pour, et qui donnera accès, dans un premier temps, à la partie multifamiliale, comme on va l'appeler, puisque le terrain sur base du RUE, doit être développé en deux parties distinctes, c'est-à-dire une partie en unifamiliale avec une zone de parc et un maintien de zones vertes assez importante. La partie du dessus qui sera dévolue à l'implantation et la réalisation de maisons unifamiliales. Donc cette voirie-là va permettre l'accès au site, à des parkings souterrains dans cette partie-ci. Il y aura éventuellement quelques places complémentaires en dehors, le futur projet de parking, et il y a, suite aux discussions avec la commune, une demande pour créer un espace public type plaine de jeu, puisque l'idée aussi, avec la proximité de ce sentier piéton, la présence de la maison médicale, des écoles et de la crèche, de pouvoir créer une zone à mobilité douce, donc une liaison piétonne qui permettra de rejoindre ces zones-là et également le centre, mais également au travers du site, par toute une série de cheminements, piétons dans un premier temps, au niveau des voiries, que ce soit cette voirie de desserte-là, cette voirie plus privative pour accéder à cette résidence-ci, ou cette voirie à desserte limitée pour les habitations, auront une vocation de zone partagée pour permettre d'avoir une circulation à vitesse réduite et de permettre à tout un chacun, jeune, moins jeune, de pouvoir, déambuler et profiter de ces zones en toute sécurité. Il y a deux éléments complémentaires pour cette voirie ici et pour cette partie-là. Il y a une obligation, idem pour la zone de rebroussement ici, de pouvoir permettre un accès au service incendie. Donc à l'heure actuelle, nous nous sommes basés sur les normes en vigueur. Nous devons rencontrer le service incendie prochainement pour faire évoluer le projet. Donc au niveau des résidences qui sont ici, il y en aurait une première de 27 appartements, une deuxième ici de 20 et une troisième de 28 appartements. Donc je vais revenir au gabarit par après. Il faut savoir qu'on avait le souhait d'implanter ces gabarits parallèlement au relief du sol pour éviter des difficultés d'implantation et de terrassement, qu'une grande partie des appartements envisagés sont traversants, puisque c'est une demande également du RIE et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on profite de l'ensoleillement et de l'orientation nord-sud, et c'est la raison pour laquelle on les a mis parallèles. Mais on a également voulu, vis-à-vis des riverains de ce côté-ci et de ce côté-là, que, visuellement parlant, l'impact de ces résidences soit plutôt par une architecture de pignon, c'est-à-dire que pour ne pas implanter les bâtiments perpendiculaires et que ça puisse avoir une vue trop invasive, on les a implantés de cette façon-là pour qu'on puisse avoir des vues plutôt de pignon. On garde un grand espace vert ici. Cet espace servira également pour tout ce qui est rétention d'eau, traitement des eaux de pluie, puisqu'on a l'obligation aujourd'hui par rapport au code de l'eau de devoir gérer les eaux de pluie à la parcelle. Donc il y a des tests d'infiltration qui ont été effectués, dont on attend les résultats, mais on a une possibilité d'infiltration qui est quand même relativement intéressante. La deuxième partie du projet, donc ce qu'on va dire plus au sud, plus en haut du terrain, donc concerne un développement d'habitations, donc de maisons unifamiliales. On a essayé de diversifier les différents types d'habitations pour pouvoir répondre à un maximum de demandes par rapport à un programme particulier. Donc ici, à Fronderu, on va travailler avec 4 maisons en 3 façades. Et en intérieur d'îlot, on va retrouver toute une série d'habitations, 2 façades ou 3 façades, 2-4 façades éventuellement là au bout, en bout de voirie de desserte limitée. Et en partie centrale, on a regroupé une série de maisons avec des carports et des zones de parking. Sur l'ensemble de la zone, on est à une moyenne de 1,4 places de parking par logement. Donc on parle ici de plus ou moins 90 logements, 90-95 par rapport au nombre d'appartements et de maisons. Voilà, on est à 75 appartements et 30 maisons avec une moyenne d'1,4 parking par logement. On a également souhaité, dans le traitement du projet, partir avec une architecture ou une volumétrie en toiture plate. Donc le RUE précisait toiture à deux pans ou toiture plate, mais si on décide d'appliquer la toiture à deux pans ou la toiture plate, si on le fait, on doit le faire sur l'ensemble du site pour avoir une certaine cohérence. Donc si je reviens 2 secondes en arrière, en discussion avec la commune et avec la DGO4, donc l'urbanisme à Arlon, on a gardé 4 maisons en toiture à 2 pans puisqu'elles s'intègrent plus dans un tissu d'un bâti existant. Mais dès le moment où on rentre sur le site, on traite l'ensemble des volumes, tant des habitations que des immeubles appartements en toiture plate. Ces toitures plates permettent également de pouvoir placer des techniques, puisque il n'y a pas de gaz sur Saint-Hubert, donc on envisage d'utiliser des énergies type pompe à chaleur, panneaux solaires, photovoltaïques, forcément en lien avec l'utilisation de la pompe à chaleur, également utilisation de l'eau de pluie, en fonction des possibilités et des nécessités pour les aménagements. Voilà. Alors, au niveau de la densité, puisque le RUE évoquait 30 à 35 logements à l'hectare au niveau du règlement urbanistique et environnemental, donc on a un terrain de 3 hectares 20, donc les 95 logements, on est dans la fourchette, je dirais, de 32 logements à l'hectare. Donc on respecte cette densité qui avait été précisée dans le RUE. Alors, donc, je vais revenir au niveau de la coupe. Donc on a dans les résidences, on a des parties de parking enterrées, donc souterrain, et on traite en fonction, donc le RUE autorise le R plus 1 plus toiture pour les maisons, on est en R plus 1. On autorise dans la partie ce qu'on appelle de parc. Le R plus 2 plus toiture est autorisé, R plus 2 plus toiture, en traitant le dernier niveau par un appartement type penthouse qui est accessible, où on peut avoir 2, 3 ou 4 façades en fonction du type d'appartement qui sera créé. Ponctuellement, un R plus 3 plus toiture, puisque on a estimé que dans la partie centrale du parc, voilà, si on le reprend ici, c'est le bâtiment qui est le plus éloigné du bâti existant, tant de ce côté-là que du côté de la rue Dérogation. Donc on est en R plus 2 plus toiture, R plus 3 plus toiture, et voici le développé des maisons en R plus 1. Le projet en lui-même fera l'objet, donc outre un permis d'urbanisme groupé, fera également l'objet d'un permis voirie, c'est-à-dire qu'il y aura des ouvertures de voirie. Il y a une discussion à avoir avec la ville de Saint-Hubert par rapport aux reprises de voirie qui deviendraient publiques et par rapport à ces accès. Donc ça fera partie intégrante de la demande de permis. Donc il y aura à ce titre-là des études techniques au niveau égouttage, puisqu'on va devoir, on va venir se repiquer sur l'égout, je pense qu'il est un diamètre 400 dans la rue Dérogation. Tout ce qui est eau de pluie sera géré tant pour les maisons individuelles que pour les immeubles appartements à la parcelle. Il y aura forcément des extensions de réseau au niveau électrique avec une série de cabines à haute tension, mais qui n'ont pas encore été définies aujourd'hui. Donc au niveau des appartements et des maisons, en complément de tout ce qui était pompe à chaleur et utilisation d'énergie renouvelable, il y aura également une ventilation mécanique contrôlée qui permet d'être conforme à la PEB et qui améliore la qualité des aménagements des appartements. Voilà.
Merci beaucoup pour cette première partie de présentation et merci pour votre attention également. Encore quelques minutes d'attention pour entendre le représentant du bureau d'études vous parler de son bureau et de l'étude d'incidence sur l'environnement qui va débuter.
Alors, bonsoir à tous. Moi, je vais vous toucher un petit mot concernant en fait, donc, le contexte légal dans le cadre donc, de la procédure. Donc, ici, le projet va nécessiter, comme explicité, l'introduction d'un permis d'urbanisme groupé. ce permis d'urbanisme, il va s'accompagner en fait d'une étude d'incidence dans le cas où il porte sur une superficie de plus de 2 hectares. Cette étude d'incidence, elle va accompagner donc le dépôt du permis d'urbanisme et elle doit être réalisée par un bureau donc indépendant agréé par la région Wallonne. La procédure qui encadre donc l'étude d'incidence sur l'environnement, elle est régie par le code de l'environnement et le code du développement territorial. Alors ici, l'autorité compétente qui va instruire donc le dossier, c'est le collège communal. Alors, très rapidement, pour survoler un peu la procédure, mais ce qui m'intéresse ici, c'est particulièrement d'attirer votre attention, qu'on est vraiment au tout début donc, de la procédure, au stade ici donc, de l'avant-projet. Ce qui a été expliqué ici, bien, c'est un projet qui est encore susceptible d'être modifié, notamment sur base des recommandations de l'étude donc, d'incidence. Et ensuite, vous serez réinvité au cours en fait, donc, de l'enquête publique. Là, vous pourrez consulter en fait, tous les documents qui accompagnent donc, la demande de permis, à savoir tous les plans, mais aussi le rapport de l'étude d'incidence, ainsi que son résumé non technique. Donc ici, on est bien tout au début donc, de la procédure. Ce qui a été proposé ici, bah, c'est un projet qui sera encore susceptible d'être modifié en l'état. Alors, les objectifs de l'étude d'incidence, c'est bien entendu donc, d'évaluer sur l'ensemble des domaines, c'est d'étudier les domaines sur lesquels le projet est susceptible d'avoir un impact. Il va permettre donc, de formuler des recommandations, des alternatives à l'égard en fait, donc, du porteur du projet, afin d'atténuer, d'éviter ou encore de compenser certains impacts qui auraient été donc, identifiés. Elle va permettre aussi également à l'autorité compétente eh bien, de statuer sur la demande de permis en toute transparence, en toute objectivité. Et ça permet également pour vous de vous informer concernant en fait, donc, le projet en question. Alors, le contenu d'une étude d'incidence se structure en 4 points. Dans un premier temps, on va décrire donc, le projet sous ses différents éléments, sous ses différentes dimensions. Ensuite, on va procéder donc, à une analyse en 3 phases. Donc, dans un premier temps, on va décrire un peu la situation existante de fait et de droit, donc le contexte juridique aussi bien que le contexte physique du terrain qui sera donc, urbanisé. Ensuite, on va, sur base du descriptif du projet et notamment donc, de la situation existante, identifier quelles sont donc les incidences principales en fait donc du projet et formuler des recommandations à nouveau pour éviter, réduire ou atténuer donc les effets en question. Ces recommandations, elles sont soit intégrées au projet, soit elles ne le sont pas. Mais au cas où elles ne le sont pas intégrées par le porteur en fait donc du projet, eh bien il se doit donc d'en motiver la raison. Au terme de cette étude d'incidence, on va produire un rapport technique, un rapport assez conséquent, mais qui s'accompagne également aussi d'un résumé non technique et qui, je le répète, seront disponibles pour vous au cours de l'enquête publique. Alors, quand ce qu'on entend finalement par incidence, par environnement, pardon. L'environnement, ça regroupe tout d'abord donc, le milieu humain. Il s'agit du cadre bâti, notamment aussi de la mobilité, des infrastructures, des nuisances diverses, telles que des nuisances olfactives ou encore donc, sonores. C'est aussi également donc, le milieu physique. Donc, on parle ici en fait, donc, du sol, du sous-sol, des eaux de ruissellement, des eaux de surface donc, et des eaux souterraines, mais aussi du climat et de la qualité de l'air. Et enfin, c'est également le milieu biologique et paysager, c'est-à-dire l'impact sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, mais également l'impact paysager du projet et la manière dont il s'inscrit dans le cadre environnant. Alors, ici, pour bien cadrer donc, la réunion d'information préalable, la réunion d'information préalable, elle va permettre effectivement donc, au demandeur de présenter son projet. À vous de vous informer et d'émettre d'éventuelles donc, observations et suggestions concernant le projet, mais aussi de soulever certains points que vous souhaiteriez voir donc, abordés donc, au cours de l'étude d'incidence. Et enfin, vous pouvez, c'est également ici l'opportunité pour vous de présenter, de soulever des alternatives qui raisonnablement peuvent être envisagées par donc, le porteur du projet. Voilà, alors comme vous le savez tous, la réunion elle est enregistrée, tout le support donc, sera donc accessible sur le lendemain de la réunion via le code QR suivant, mais qui sera à nouveau représenté, j'imagine, en fin de session. Et pour ne pas perdre trop de temps, moi, je vais laisser la parole à monsieur François.
Très bien, merci beaucoup pour ces présentations. Et comme on dit dans ces cas-là, à nous. Je rappelle pour celles et ceux qui seraient peut-être arrivés en cours de séance qu'on enregistre des débats, qu'on dresse un procès-verbal. Quand je dis on, c'est la commune qui dresse un procès-verbal. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous demanderai d'avoir la gentillesse de me donner à chaque fois votre nom et votre prénom quand vous prenez la parole. Si personne ne prend la parole, je vous souhaite un bon retour et une bonne soirée chez vous, mais c'est rare. Qui commence ? C'était super clair, hein. Donc ça, incontestablement, s'il n'y a pas de questions, bah, félicitations aux porteurs de projet pour le travail de préparation. Merci Monsieur Bourmès pour la présidence. Il n'y a pas de questions ? Ah, quand même, je vous en prie. Ok, bonsoir madame, quel est votre nom ?
C'est Claudine Auton. Moi, je voudrais simplement connaître à peu près la hauteur des bâtiments qui seront là.
De l'ensemble des bâtiments, que ce soit des maisons, des appartements ?
Des appartements.
Des appartements. Oui, on a parlé de ré, plus 1, plus 2, etc. Ça ne parle pas vraiment, je le concède. Peut-être faire musique d'attente en attendant. Voilà, on va revenir dans le PowerPoint, pardon, pour cette petite digression.
Je vais vous remontrer la coupe, mais si on parle de à peu près 3 mètres de niveau à niveau, donc en fonction des bâtiments et de leur position sur le site, on est entre 9 et 12 mètres. Donc 9 et 12 mètres, c'est le niveau des planchers. Donc 9 mètres, 12 mètres, et parfois 15 avec la crotère pour le bâtiment, pour l'appartement qui est en attique et qui est en retrait au dernier niveau. Oui. Donc, dans le cadre de la demande de permis, forcément, mais vous aurez des coupes complètes intégrées par rapport au relief du terrain naturel. Donc, on parle bien de rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième partie en retrait, ce qui était précisé dans le règlement urbanistique et environnemental.
Très bien.
Merci.
Merci, madame. Oui, je viens jusque vous, monsieur. Bonsoir.
Bonsoir. Michel Sauvage. Moi, j'aimerais savoir un peu le timing. Vous avez parlé tantôt que c'est possible que ce soit en plusieurs phases. Mm-hmm. Donc, je dirais la date d'entrée des premiers propriétaires et la date d'entrée des derniers.
Qu'est-ce qui était imaginé en termes de phasage ? Allez, on va essayer de se placer dans les coulisses d'un développement de projet. On est au stade très préliminaire de la réunion d'information préalable. Interviendra une demande de permis. Considérons que vous l'obtenez. Comment ça va se passer à partir du moment où vous l'avez ? C'est quoi la ligne du temps idéale que vous avez fixée ?
Donc, si on parle d'un dépôt... On va imaginer un dépôt de permis au mois de septembre. Il faut compter 120 jours pour l'obtenir. Lorsqu'on a discuté avec la commune de l'achat du terrain, on avait imaginé 3 phases ou 4 phases. Mais parce qu'un développement de projet de ce type-là, il faut imaginer 4 à 5 ans, mais ça peut parfois durer un peu plus longtemps. En ce qui concerne les règles par rapport aux demandes de permis, un permis est valable 5 ans dès le moment où on l'a entamé. Donc si on dépasse cette période de 5 ans, il n'est pas... Soit on demande une prorogation, soit on décide de faire un phasage. Donc si aujourd'hui on prend un peu de sécurité entre 5 et 7 ans, grand max ou maximum pour pouvoir réaliser l'ensemble du projet.
Ok, et avec une priorité qui est donnée à quoi ?
La priorité est donnée à la partie basse en lien avec la voirie. Ben voilà, je vais... Hop. Voilà. Je vais laisser le slide sur cette page-là. Hop. Allez. Voilà. Donc l'idée, c'est de commencer par cette voie ici. Si en plus, il y a un souhait ou une intention de réaliser ce parking-là en lien avec toutes les activités et les liaisons, de commencer par cette partie-là. Donc 47 appartements, de poursuivre avec celle-ci, avec cette voire ici, et puis de poursuivre avec cette partie-là, alors en une ou en deux phases, parce qu'il y a une interaction entre les accès de cette résidence-là par rapport au retournement pompier et par rapport à la zone de circulation qui est là. Voilà, on parle de 3 ou 4 phases, mais on indiquera dans la demande de permis 5 à 7 ans pour réaliser l'ensemble du projet, si tout se passe bien.
Ça répond à votre question ?
Oui, encore une petite question.
Bien sûr.
Vous n'avez pas une vue plus précise des routes à l'intérieur du site ?
Alors, ça, c'est une des voiries ici, donc c'est celle-là. Donc, on démarre de la rue Dérogation. Elles doivent avoir une largeur plus importante parce que les pompiers doivent pouvoir faire demi-tour et se croiser. On a une voirie ici qui donne accès à la résidence, par là, mais qui servira également à la mobilité douce et éventuellement à un trafic de jonction. Mais l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans cette résidence-ci par là, de pouvoir permettre aux pompiers d'avoir accès devant la résidence et de repartir, et donc probablement d'essayer d'éviter qu'il y ait, je dirais, un échappatoire de circulation dans cette zone-là pour partir par ici. La voirie de desserte limitée ici de 15 km/h également pour les habitations sera, pour moi, pour nous en tout cas, devra également faire partie du permis voirie. Donc on a une voirie ici, une voirie rue haute là et une voirie intermédiaire entre les deux.
Mais au moment où on évoquait l'enquête publique tout à l'heure, pour répondre plus précisément encore à la question monsieur, il demandait si vous aviez des cartes plus précises par rapport aux voiries et aux âges d'informations qui vont être extérieures.
Tout à fait.
La population ici sont des plans généraux, mais il y aura des choses, j'imagine, beaucoup plus précises dans une phase ultérieure.
Tout à fait. Dès le moment où il y a un permis voirie qui doit être introduit en même temps que la demande de permis d'urbanisme groupé, le permis de voirie doit faire l'objet d'une décision du conseil. Et donc, il y a un dossier technique avec des coffres, des pentes, des voiries qui doivent être conformes à ce qu'on appelle le cali route, qui est le cahier des charges de la région wallonne, puisque si on envisage une reprise des voiries par la commune, il faut que ces voiries soient faites de manière conforme, comme si on était dans un dossier public avec un cahier de charges adéquat, tant au niveau de tout ce qui est impétrant, raccordement d'eau, électricité, etc.
Mais si vous voulez en savoir davantage ou en voir davantage, c'est vrai qu'on est dans une réunion très formelle aujourd'hui. Hein, tout ça est régi, il y a des micros, de la projection, oui. On enregistre, il y a un PV, hein, c'est sérieux. Mais vous pouvez peut-être rester connecté au responsable de l'entreprise que vous avez en face de vous si vous souhaitez consulter des plans peut-être plus détaillés et avoir d'autres informations que ce soir.
Absolument.
Je pense qu'ils sont tout à fait ouverts à ça, donc n'hésitez pas. Oui, madame d'abord, désolé monsieur. Bonsoir.
Bonsoir. Donc je m'appelle Morgane Colette. Je suis propriétaire d'une maison qui est entre la servitude et la rue du Mont. Donc sur la slide de là, justement, on voit en bas à droite le petit chemin jaune.
Ici.
Et ma maison est tout au bout. Vraiment le coin entre les deux. Donc sur les plans, on voit que c'est un chemin piéton, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais savoir si ça va rester ainsi ou si à terme, il est voué à devenir une voirie.
Dans d'autres projets, il n'est pas prévu que ça devienne une voirie. Donc, c'est un cheminement piéton qui a été évoqué avec, en collaboration avec la DGO4 avec la région wallonne, donc l'urbanisme de la région wallonne. Il n'y a aucune intention de créer une voirie de ce côté-là.
Donc, ça resterait un chemin piéton.
Ça restera.
Pas de changement d'affectation.
Voilà, donc, on parle d'une mobilité douce.
Mmh. Donc, les voitures peuvent quand même y avoir accès malgré tout.
Non.
Ce serait bloqué aux voitures.
Oui.
D'accord. Merci.
Ben voilà. Bonne nouvelle pour vous, j'imagine, là où vous habitez. Très bien. Quelqu'un va lever la main, mais je ne sais plus. Oui, pardon, monsieur, je vous en prie. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, Gérard Coulon. Encore une question au niveau des voiries. À l'origine, on avait parlé d'une voirie qui sortait au niveau de la rue Saint-Roch. Donc, le tournant, là, le coup qu'on voit au-dessus. Qu'en est-il ?
Je pense qu'elle était... Oui, c'était ici.
Oui.
Oui. Voilà, donc vous parlez probablement de ceci.
Vraiment le...
La rue Saint-Roch.
Oui, voilà, vraiment au tournant au-dessus, là. Oui.
Oui, c'est ça.
Donc... Parce qu'il y a, à cet endroit-là, d'ailleurs, il y a un panneau d'information qui a été planté, donc...
Oui. Mais le panneau d'information, par obligation, il doit être planté le plus possible aux limites de propriété. Donc on l'a
mis. Oui, aux quatre points cardinaux de la zone de
voilà,
projet.
C'est surtout en effet. Pour permettre à tout un chacun d'être au courant. Donc il n'y aura pas d'expropriation, il n'y aura pas dans notre chef, par rapport à notre projet, de réalisation d'une voirie à cet endroit-là.
Je me fais le relais de ce que monsieur vient de dire au micro, il a dit dommage. C'est ça? Ok, très bien. Merci monsieur, merci pour cette réponse. Des questions? S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Ça veut dire que c'était très très clair et c'est très bien comme ça aussi. Oui, je vous en prie monsieur, j'arrive. Je vous en prie, bonsoir.
Oui, donc Eugène Bailly, si vous pouviez revenir au slide précédent avec les différentes implantations et sur le côté droit de votre parcelle, on voit donc qu'il y a deux bâtiments qui sont prévus à côté des 4-5 petits arbres. Vous redescendez, s'il vous plaît, au niveau des habitations individuelles. Donc, à cette hauteur-là, sur la droite, vous avez des parcelles qui sont, ou des implantations qui sont en gras, et donc qui expliquent la présence d'un bâtiment. Mais alors, au-dessus, vous en avez deux, et en dessous, vous en avez deux également. Oui. Est-ce que c'est des bâtiments futurs prévus, ça
ah
aussi?
Ah oui, vous parlez de ce qu'on voit en filigrane, c'est
de
ça?
De ce qu'on voit en filigrane, oui.
Okay.
Oui, qui peuvent représenter effectivement des emplacements pour des bâtiments.
Oui, donc, aujourd'hui, on peut comprendre, en regardant ce plan, que ce qui est fait est en plus grand, mais qu'il y a une possibilité d'en développer à gauche et à droite des bâtiments qui sont montrés ici.
Oui,
c'est
ce
ça
qui est important, bien entendu,
bien
pour
sûr
les riverains qui sont de ce côté-là. Bien
clairement
entendu.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans l'achat du terrain et en pointillé, vous avez ceci qui est en fait la trace de la voirie, entre guillemets, du RUE. Et donc, on a l'obligation de laisser cette zone-là non construite, si un jour, peut-être, je ne sais pas quand, et qui décidera d'exproprier tout ceci, de continuer le développement du projet par en haut ou par en bas. On avait donc indiqué le nombre de logements avec la voirie à développer ici, avec un point de rebroussement. Mais voilà, c'est deux maisons la mitoyenne de ce côté-là. Si on veut les mettre dans une demande de permis, ça veut dire qu'on doit obligatoirement construire la voirie sur toute cette zone-là.
Mais ça n'est pas l'intention du porteur de projet, ça n'est manifestement pas l'intention de la commune non plus. Donc
non,
ils ont des choses à la date à laquelle on
tout
se parle.
Tout à fait, okay, tout à fait, oui, oui. Donc on reste bien dans l'ébauche de ceci et on n'ira pas plus loin.
Ok, très bien. Merci pour cette question, monsieur. C'était tout à fait pertinent. Pardon, excusez-moi. Bonsoir.
Bonsoir, Yves Etienne. Donc moi, c'est juste, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées et de sorties. Et vous amenez tout sur la rue Dérogation, où il y a beaucoup de problèmes au niveau des sorties d'école. Donc surtout l'entrée ou la sortie la plus basse à la route. Oui, là.
De celle-ci.
Ah, vous pouvez penser que le nouveau flux lié aux maisons va ajouter des problèmes aux problèmes aujourd'hui, c'est ça?
Ben,
c'est un peu ce que vous dites.
Quand c'est la sortie des écoles, il y a beaucoup de voitures garées à ces endroits-là.
Mm-hmm.
Maintenant, vous avez 100 logements possibles. Donc, il y a beaucoup de voitures, quoi.
Donc, il y a
de prévues.
Oui. Donc, une première chose que le bureau d'études devra faire, c'est procéder à un comptage. Donc, je vais laisser M. Ancé en parler. D'un autre part, par rapport au nombre de logements qui sont ici, effectivement, il faut tenir compte de cette notion de mobilité. Il faut espérer également, pour tout ce qui concerne aussi, je dirais, les accès à l'école, que cette poche de parking puisse éventuellement un peu délester ou libérer la zone par rapport à ça.
Mais ce qu'il faut préciser, c'est important, parce qu'on a rapidement évoqué l'étude d'incidence sur l'environnement. Il y a des chapitres dans une étude d'incidence sur l'environnement. La mobilité, c'est toujours un chapitre essentiel. La mobilité, l'insécurité, je ne sais pas si c'est lié, mais c'est vraiment deux questions qui se posent. Comment est-ce que vous allez travailler cette question-là d'évaluation de la mobilité et d'éventuelles difficultés qui peuvent se produire avec l'arrivée du nouveau quartier?
Oui. Alors, effectivement, la mobilité pour un projet comme celui-ci, c'est vraiment une dimension donc, importante. Comment est-ce qu'on procède ? Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des comptages, donc des comptages de trafic. On va se mettre donc aux endroits, notamment le long de la rue de l'Irrigation, lors donc de moments d'affluence, donc lors des sorties d'école notamment, puisque l'école c'est vraiment un pôle générateur de mouvement, de flux. Et alors on fait donc des relevés et sur base on fait donc du descriptif du projet, on va estimer donc des flux induits et on va regarder un peu si ces flux peuvent s'insérer donc dans le relevé qui a été réalisé et si c'est effectivement donc compatible. Et donc c'est là tout l'objet effectivement de l'étude d'incidence et donc le cas échéant aussi de formuler certaines recommandations notamment pour s'assurer que le projet ne crée pas de problème de mobilité et que ça sert bien dans le contexte environnant.
Il faut préciser que dans des présentations de projets comme ça, il y a toujours une intention du porteur de projet qui vient avec son plan A, qui pense qu'effectivement c'est comme ça que les choses doivent se faire. Et il est parfois démontré par l'étude d'incidence qu'il y a des alternatives ou des solutions différentes qui doivent être mises en œuvre. Donc ça peut tout à fait se produire. Ici, voilà, il y a une intention, est-ce qu'elle est bonne, pas bonne ? C'est au bureau d'études à essayer d'évaluer ça et de faire des propositions.
Donc il risque d'avoir d'autres sorties ? D'autres entrées sorties ? Peut-être, ouais. Par la suite. Mais
dès le moment où nous sommes propriétaires de cette zone-là, dans le cadre de notre projet, il n'y en aura pas d'autres. Si un jour cette extension de projet se fera, à ce moment-là, il y aura d'autres exutoires. Mais à ce niveau-ci, par rapport au projet tel que présenté, on est sur l'entrée ici et l'entrée là qui sont conformes à ce qui avait été proposé dans le RU.
Oui, donc la seule possibilité en termes d'évocation, vous l'avez dit, c'est la poche de parking qui se trouve un peu plus haut, c'est ça. Pour essayer, la seule possibilité effectivement d'améliorer la situation, possiblement, c'est la poche de parking que vous évoquez.
Oui, c'est okay. La poche de parking qui est ici, qui elle, de toute façon, dépend également de la création de cette voirie-là.
Ok, très bien. Merci, monsieur. S'il vous plaît, madame, bonsoir, votre nom ?
Bonsoir, petit Josiane. Moi, ma question
s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Non, je disais, monsieur, qu'on entend très fort. Continuez, allez-y.
Voilà, sur le nombre d'appartements et de maisons que vous allez réaliser, savez-vous déjà la proportion d'appartements, de chambres, d'appartements et de maisons à deux chambres ou trois chambres, et tout cela pour connaître l'incidence du nombre de populations qu'il y aura en plus à Saint-Hubert dans 5-6 ans?
Très bonne question. Est-ce qu'au stade où on se parle, vous savez déjà tout ça ?
Alors, au niveau des maisons unifamiliales, donc, on avait... en fait, on est plutôt avec un nombre de façades. Donc, au niveau du programme en lui-même, je pense qu'on est sur des maisons de deux ou de trois chambres, peut-être quatre chambres en fonction des quatre façades. Au niveau des appartements, c'est un mixte d'appartements, une chambre, deux chambres et trois chambres, avec une majorité de deux chambres. En fonction de la position des appartements en penthouse, on peut parfois arriver à trois chambres. Parfois, on aura à certains appartements une chambre ou un ou l'autre studio. Aujourd'hui, on est sur l'élaboration, je dirais, de l'aménagement des appartements. Donc, on ira dans cette direction-là par rapport au nombre de...
Et en termes de projection d'habitants, ça donnerait quoi ? Vous savez déjà ou pas trop ? Ok, c'est une colle. Je suis désolé de vous l'avoir posée. Ça viendra, vous le verrez le moment.
On y répondra. On y répondra.
D'autres questions ? Oui, je vous en prie, monsieur. Bonsoir, votre nom ?
Bonsoir, oui, donc Richard Sylvain. Nous, on habite au niveau de la rose des points cardinaux. Là. Vous parliez par rapport à la voirie qui aurait de la nouvelle végétation, ainsi de suite. Donc, on aurait voulu savoir ce qui était prévu.
Donc, pour l'instant, je ne sais pas vous dire aujourd'hui, mais si je pense qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion par rapport à ça, et que, en ce qui concerne, je dirais, les limites de propriété de ce côté-là et de ce côté-là. De ce côté-là, il y a déjà une densité végétale très importante. De ce côté-ci, c'est à préciser. Et le cas échéant, on peut rester en contact pour éventuellement en débattre.
Et comment, dans le même axe, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un accès à nos terrains par rapport à cette voirie-là qui va être construite ?
Alors, on a déjà, dans différents dossiers, parfois accepté des servitudes de passage et des choses comme ça, se faire de manière collégiale, mais, ou d'entretien, ce genre de choses a déjà...
Oui, de demandes ou de réflexions citoyennes, et aussi peut-être les demandes qui pourraient parvenir. Ceci tout ressemble fait. Quand même à une demande. Oui. Donc tout je me dis que ça vaudrait la peine de rester connecté avec le porteur de projet, et puis in fine avec la commune qui va avoir son mot à dire.
Absolument.
Voilà. Ils sont là, ne les lâchez pas. D'autres questions ? Sinon, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est peut-être, bon, ici, on vous les projette sur un écran comme ça. Il y a fort à parier que demain, quand vous aurez accès à la vidéo et aux slides, vous verrez mieux les choses. Il y a des détails qui vont peut-être vous sauter aux yeux. Il y a peut-être un certain nombre de choses qui vont être plus clairement visibles. Ça sert à ça aussi. Le QR code que je vais vous montrer, il faut le scanner et vous aurez accès à l'ensemble des présentations. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ?
Donc, c'est important de rappeler le délai pour envoyer effectivement vos demandes, remarques, suggestions.
Et moi, j'insiste sur quelque chose. À partir du moment où il y a un développement local avec une entreprise locale qui a pignon sur rue, on est là pour parler d'une procédure. On est bien dans ce cadre-là. Hein, je l'ai rappelé. On l'a rappelé aussi au travers des représentants du bureau d'études. Il y a aussi du bon sens. N'hésitez pas à frapper à la porte, à poser des questions que vous pourriez vous poser auprès de l'entreprise en direct. Ça peut aussi avoir, je dirais, pas mal de valeur et ça peut faire aussi avancer favorablement un projet. Je voudrais vous remercier. Merci, M. Bourmès, pour la présidence de séance. Merci pour cette présentation. Merci également aux représentants du bureau d'études. Merci à vous. Et j'ai presque déjà envie de vous dire bonnes vacances. Merci.